J'ai choisi trois déclarations qui m'ont interpellé, puisque j'ai relu récemment l'évangile de Matthieu. Et l'intérêt des lectures répétées que nous faisons de la Bible, ce n'est pas d'accomplir un geste religieux, c'est de redécouvrir à chaque fois dans la parole de Dieu des richesses que nous avons laissées passer. Et ça marche à tous les coups. Alors en relisant Matthieu, je suis arrivé au chapitre 12. Au chapitre 12, ça rapporte des discours de Jésus, et ces discours de Jésus sont justement des discours de contestation et avec les pharisiens. Bon, on n'est plus dans la configuration de Nicodème venu pacifiquement, on est là avec des pharisiens qui veulent lui tendre des pièges et qui essaient de le faire chuter. Et Jésus répond à chacune des objections qu'on lui fait, souvent en citant la parole de Dieu. Il connaît parfaitement les textes, ce qui justifie ce que disait Nicodème. Nous savons que tu es un docteur des Écritures. Alors, nous allons prendre juste des petits morceaux, des tout petits morceaux. En fait, les versets complets ne m'intéressent pas. Si vous voulez, on va quand même les lire pour pas que vous soyez complètement perdus. Mais en fait, c'est des tout petits morceaux qui m'intéressent. Au verset 6, alors que les pharisiens contestent l'irrespect du sabbat de ses disciples, Jésus dit, « Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. » Et puis au verset 41-42, les pharisiens ont demandé un miracle. Bon, pensant que Jésus allait faire un show, allait leur faire un miracle juste comme ça. Alors, nous lisons les deux versets. « Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération » et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors, trois affirmations qui ne pouvaient que scandaliser les Juifs. Le temple, Jonas, Salomon, c'est-à-dire trois piliers de la religion des Juifs. Hein. Alors, je les prends, mais pas dans le même ordre que le texte. Commençons par Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Bon, Salomon, c'est un personnage qui est connu au-delà des cercles chrétiens et juifs. D'abord parce que pour les gens érudits, il y a une expression qui s'appelle « un jugement de Salomon ». Qui est connu comme étant une preuve de sagesse antique dans la justice. Et puis, il est connu en tant qu'auteur supposé, puisque bon, c'est très difficile pour vérifier, comme auteur supposé de la plus grande partie du livre des Proverbes. On lui attribue généralement la rédaction de l'Ecclésiaste et on lui attribue souvent le Cantique des Cantiques. Trois textes qui sont atypiques dans la Bible parce que ce sont ce qu'on appelle des paroles de sagesse, le Cantique des Cantiques étant un genre tout à fait unique. Or, les paroles de sagesse sont quelque chose d'extrêmement répandu dans le Proche-Orient, dans l'Antiquité et à l'époque de Jésus. Les paroles des sages sont répétées, copiées, elles font l'objet d'un enseignement dans diverses écoles, etc. Donc vous avez de la sagesse des Mèdes et des Perses, vous avez la sagesse juive, vous avez la sagesse des Égyptiens, vous avez donc des sages partout. Et beaucoup de préceptes de ces sages se recoupent. Hein. Salomon est le grand sage du peuple juif. D'abord parce que Dieu lui a donné le privilège de construire le temple, qu'il avait refusé à son père David, qui avait trop guerroyé et versé le sang. Salomon construit le temple, le premier temple, celui qui va rester mythique. Ensuite, parce que il va porter la dimension du royaume à son apogée. Alors, n'imaginez pas, c'est pas l'Empire romain, hein, le royaume de Salomon, mais enfin, dans les royaume du Proche-Orient, il a grandi considérablement. Mais surtout, sa réputation est très grande comme souverain très sage. Et Jésus rappelle l'épisode de la reine de Saba, la reine du Midi, venant rencontrer ce sage pour vérifier sa grande sagesse. Or voilà que un charpentier galiléen, errant, sans domicile fixe la plupart du temps, entouré d'une horde hirsute d'anciens pêcheurs, de péagers, enfin bref, de gens pas très recommandables, dit « il y a ici plus que Salomon ». Bon, avouez que pour n'importe quel juif pieux, ça sent le blasphème. Donc il faut comprendre la réaction des pharisiens, hein, il faut comprendre. C'est proprement là aussi incroyable. Comment Jésus peut-il prétendre être plus que Salomon ? Regardez, je vous lis juste deux ou trois choses sur Salomon. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Et Jésus, tranquillement, dit « il y a ici plus que Salomon ». Alors, comment Jésus peut-il être plus grand que Salomon ? Alors d'abord parce que, de manière prophétique, il annonce l'impact qu'aura sa parole. Les évangiles aujourd'hui sont au-dessus, je dirais, de la sagesse de Salomon par l'impact mondial qu'ils ont eu. Mais à l'époque où il le dit, ça relève de la prophétie. Et puis Jésus est plus grand que Salomon, mais là aussi c'est la suite qui le prouvera, par sa vie. Parce que Salomon, il faut lire l'histoire entière. Ce gigantesque sage Salomon, la fin de sa vie n'est pas très brillante. À la fin de sa vie, Salomon revient à l'adoration de certains dieux des régions voisines. Il revient à une petite pratique de l'idolâtrie. De la même façon qu'il est réputé pour avoir été, pour employer un mot très religieux, très concupiscent, avec ses concubines en très grand nombre. Donc la fin de la vie de Salomon n'est pas glorieuse. La fin de la vie de Jésus, c'est le couronnement d'une vie qui est toujours en croissance. Si vous lisez les évangiles, essayez de tracer, au fur et à mesure que vous les lisez, essayez de tracer une courbe. Et vous verrez que cette courbe monte sans cesse, en intensité et en révélation. Alors évidemment, quand Jésus le dit, ça scandalise et ça pousse les pharisiens à comploter pour qu'ils disparaissent. Mais aujourd'hui, nous, quand nous lisons ça, nous n'avons pas l'excuse des pharisiens. Aujourd'hui, nous, quand nous lisons ça, nous avons les évangiles, nous avons la vie de Jésus, et nous avons surtout l'impact que la vie de Jésus a eu sur les vies. Donc, j'ose dire que Jésus est bien plus que Salomon, parce que sa vie est sans péché et sa parole est la puissance de vie qui libère. Deuxième élément, il y a ici plus que Jonas. Alors Jonas, c'est un héros de la littérature enfantine chrétienne, parce que ça marche bien, l'histoire du gars qui est avalé par un gros poisson, et qui reste 3 jours, qui est recraché. Bon. Mais Jonas, pour les pharisiens, c'est certes, il y a cette intervention de Dieu, ce signe de Dieu, mais Jonas, c'est aussi et surtout la deuxième partie du livre de Jonas. Parce que pourquoi Jonas est avalé par le grand poisson ? Parce que Jonas s'enfuit courageusement devant l'appel de Dieu. Dieu lui dit, tu vas aller prêcher la repentance aux habitants de Ninive. Ninive, c'est comme Babylone hein, dans la Bible, c'est la ville du péché. Quand Jonas entend ça, il a vite compris, mission à risque. Donc, tranquillement et courageusement, il s'embarque dans la direction opposée. Donc jusque-là, le modèle de Jonas n'est pas extraordinaire. Épisode du poisson. Et si on arrête à la régurgitation de Jonas sur la plage, bon, ça plaît beaucoup aux enfants. Mais suite, deuxième partie de Jonas, Jonas a compris la leçon. Il a eu le temps de méditer dans l'estomac. Et Jonas va à Ninive. Ninive, qui est une très grande ville. Et là, il sillonne la ville, il fait le tour de la ville pendant plusieurs jours et il annonce la repentance. Et qu'est-ce qui se passe ? À la grande surprise de Jonas, non seulement les Ninivites se repentent, mais le roi de Ninive demande lui aussi la repentance et ordonne à toute sa population de l'accepter. Alors, Jésus plus grand que Jonas. Mais pensez aux deux signes. Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson. Hein, vous ne trouverez jamais dans le récit que Jonas est mort. Or, Jésus est bien mort. Hein, le récit des évangiles dit, il prononce ses dernières paroles et il rendit son esprit. Jésus est bien mort. Il a été mis au tombeau et 3 jours après, il n'y est plus. On a le tombeau vide comme preuve matérielle. Donc, en cela, le signe de la résurrection de Jésus est plus grand que le signe de Jonas. Bon. Mais surtout, la prédication de Jésus ne va pas se réduire à la repentance éphémère des Ninivites. La prédication de Jésus de son vivant, elle est déjà une puissance pour les Juifs. Et vous avez de multiples mentions dans les évangiles de la foule qui suit Jésus, qui lui amène les malades, etc. Bon, on ne va pas insister là-dessus. Vous avez peut-être remarqué qu'à un moment donné, Jésus dit qu'il est venu pour les brebis d'Israël qui étaient perdues. Bon. Et beaucoup en déduisent que la mission de Jésus, c'était d'abord de parler aux Juifs, que les autres, ça ne l'intéressait pas. Or, si vous regardez la Bible, vous voyez que Jésus, il a fait quelques incursions chez les païens et il a fait des missions de délivrance également. Il a délivré des gens de la maladie, il a pardonné la femme samaritaine, il a guéri la fille de la femme de Sidon, etc. Bon. Donc, ce faisant, il montre à ses disciples qu'il faudra élargir le champ. Et quand il est ressuscité, le signe de Jonas est matérialisé par le commandement qu'il fait passer à ses disciples. Soyez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on n'est pas dans la prédication de Jonas, limitée à une grande ville, certes, mais à une ville. Le message de Jésus, il a été porté partout, jusqu'aux extrémités de la terre, parce que depuis 2000 ans, des hommes ont pris à cœur la parole de Jésus. Donc, si on regarde aujourd'hui ce signe de Jonas, évidemment, il y a bien plus que Jonas en Jésus. Alors, la troisième affirmation. Et il y a ici plus que le temple. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'amphore. C'est vraiment l'affirmation quasiment blasphématoire. Parce que pour un juif, le temple, c'est le lieu du culte. Le lieu où il faut monter au moins une fois par an, lors d'une fête. Et voilà Jésus qui dit, dans le temple, il y a plus que le temple. Ailleurs, il a dit quelque chose d'encore plus violent. Il a dit, je détruirai ce temple et je le rebâtirai. Donc, en 3 jours. Bon. S'attaquer au temple, c'est s'attaquer à quelque chose de central dans la religion juive. Le temple, c'est le lieu où est matérialisée la pratique de la loi. On vient accomplir les sacrifices rituels, on a construit ce temple sur le modèle qui avait été donné au désert. Or, que dit Jésus ? Jésus, dans le chapitre 5 de Matthieu, à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. » Et c'est à la suite de ça qu'il prend des exemples dans la loi et qu'il montre comment il accomplit la loi. Vous avez entendu dire, etc. Jésus enseigne les gens qui l'écoutent à aller plus loin que la loi. Or, celui qui donne un enseignement qui appelle à dépasser la loi est lui-même libéré de la loi. Donc Jésus est libéré de tout ce qui se fait dans le temple, même s'il pratique les rituels et il va dans le temple et il suit les fêtes juives, il est plus que le temple dans la mesure où il a une parole qui transcende la loi et qui va bien au-delà. Et tout le message des évangiles doit être lu à cette lumière. Jésus leur dit, vous avez la loi, mais qu'est-ce que vous en faites ? Et les reproches faits aux pharisiens sont sur ce registre. Jésus reproche aux pharisiens, non pas d'être de mauvais juifs, mais de d'abord de montrer leur observance avec beaucoup d'application, de se donner en spectacle, et ensuite d'insister tellement lourdement que le peuple est appelé à pratiquer des choses très difficiles. Donc Jésus, lui, a un enseignement beaucoup plus simple, parce que son enseignement va au-delà de la loi. Donc, la parole de Jésus, à l'époque des Juifs, elle passe pour une parole qui est blasphématoire. Et plusieurs fois, les pharisiens cherchent à lui faire prononcer une parole en public qui va pouvoir le faire condamner, et chaque fois, il y échappe. Et puis finalement, quand il l'arrête et qu'il l'amène devant le Sanhédrin, là, il lui demande s'il est le fils de Dieu, et il acquiesce, et là, bon, ça y est, c'est le blasphème des blasphèmes. Alors, Jésus est plus que le temple, dans la mesure où le temple a été détruit. Le temple a été détruit, il a certes été reconstruit, mais après une grande période de ruines. La parole de Jésus, elle englobe la loi, mais elle va bien au-delà. Et je dirais que par l'amour, Jésus nous permet d'aller au-delà de la loi et des 613 commandements que les Juifs tentent de respecter. Jésus est plus grand que le temple parce qu'il est partout. Il est partout, on peut adorer Jésus partout, il n'y a pas besoin d'aller en un lieu précis pour l'adorer. Alors, je vais arrêter sur ces éléments, je voudrais terminer par, finalement, me poser la question. Parce que là, on est dans une sorte de théologie négative. Hein, Jésus est plus grand que Jonas, Jésus est plus grand que Salomon, il est plus grand que le temple. Qui est vraiment Jésus-Christ ? Alors on me dirait, celle-là, on nous l'a faite il y a longtemps, on a fait le catéchisme, on a fait... Bon, d'accord, ok. Vous savez, la question paraît anodine, mais en réalité, elle ne l'est pas. Nous, les Églises libres, nous avons, comme la plupart des mouvements protestants, une confession de foi. Cette confession de foi, nous, à l'occasion notamment de la journée de l'Union, nous la lisons et nous la proclamons ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une confession de foi ? C'est résumer en termes très brefs les éléments de croyance qui nous rassemblent. Évidemment, la confession de foi n'est pas au-dessus de la Bible et des Évangiles, mais elle est utile pour fédérer les hommes. Et je lis au troisième paragraphe de la confession de foi des Églises évangéliques libres. Nous croyons en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, médiateur d'une alliance nouvelle par laquelle la vérité et la vie sont offertes aux hommes. Il a donné sa vie en sacrifice, une fois pour toutes sur la croix. Livré pour nos fautes, il est ressuscité pour notre justification. Il est les prémices de notre propre résurrection. Élevé à la droite du Père, il est l'unique voie du salut. J'ai rien à dire là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Sauf que tout ce que nous venons d'entendre, ce sont des déclarations doctrinales. C'est de la dogmatique. Ça nous dit des choses sur ce que Dieu voulait faire par Jésus, ce que Jésus a fait en tant que fils de Dieu pour nous réconcilier. Là-dedans, vous n'avez rien sur la personnalité de Jésus. Vous ne savez rien sur la personnalité de Jésus. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qui est vraiment ce Jésus qui se dit plus que Jonas, plus que Salomon, plus que le temple. Alors je vais aller très vite, vous pourrez méditer sur ce que je viens de dire si ça vous intéresse ou manifester votre désaccord à la fin du culte. Ce qui m'intéresse, c'est la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il vit et qu'est-ce qu'il dit ? Sachant que ce qu'il vit et ce qu'il dit sont superposés. Alors j'ai rassemblé quelques points pour en faire beaucoup plus sur la vie de Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est l'anti-religion. Jésus n'est absolument pas le fondateur d'une religion. Je vous lis la définition du christianisme. Religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. Religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. On ne peut pas faire plus simple, c'est celle qu'on trouve pratiquement partout. Donc Jésus n'est pas venu fonder une religion, mais il est même venu dire qu'il fallait se méfier des religions. Jean 4, 23, à la Samaritaine. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Or, que font depuis 2000 ans les hommes qui sont disciples du Christ et qui se réclament du Christ? Depuis 2000 ans, enfin un peu moins puisque au 1er siècle on peut l'extraire, depuis 19 siècles, les hommes fondent des religions, approfondissent les religions, se divisent sur les religions. Or, c'est surtout ce que Jésus n'a pas demandé de faire. Jésus n'a pas du tout demandé ça. Donc il faudrait que nous nous posions la question, ce matin pour nous, est-ce que je privilégie ce que les hommes ont fait à partir de leur perception, c'est-à-dire des cadres religieux, ou est-ce que je privilégie la parole que Jésus a donnée? Non pas qu'il faille détruire toutes les religions, mais il faut avoir vis-à-vis d'elles le recul nécessaire. Jésus, c'est l'anti-religion. Jésus, c'est la vie et l'adoration par l'Esprit. L'enseignement de Jésus, deuxième élément, c'est le refus des concessions. Le disciple ne doit pactiser ni avec l'argent, ni avec les pouvoirs de ce siècle. C'est l'enseignement sur Mammon, c'est l'enseignement sur César. Toutes les églises ont, à un moment ou à un autre, succombé à la tentation de s'associer au pouvoir. Toutes. C'est une des grandes fautes de la Réforme et de Luther, d'avoir, pour asseoir la Réforme, accepté d'être dépendant des princes allemands, avec le cortège de ce que ça veut dire. Donc on n'y a pas échappé en tant que protestant. Le croyant, celui qui croit en Jésus, il n'a pas à faire ses concessions. L'Église est l'Église de Christ, elle n'est pas l'Église de tel ou tel pouvoir. Nous voyons malheureusement aujourd'hui, en Ukraine par exemple, la collusion de la Russie et de l'Église orthodoxe russe qui est une véritable catastrophe. Parce que les liens se sont créés entre les deux et qu'ils ont des intérêts communs. Mais le Christ n'est pas là. Le Christ n'est absolument pas là. L'enseignement de Jésus, c'est la subversion de toute loi religieuse par l'amour. Je l'ai déjà dit, relisez les trois chapitres du Sermon sur la montagne et c'est assez absolument limpide. Appliquer la loi, même imparfaitement, je veux dire, vivre avec un cadre de loi à respecter, c'est beaucoup plus confortable que de vivre dans l'amour. Parce que l'amour a une exigence infinie. Vous avez le cadre des commandements, alors pour les juifs, je vous dis, il y en a 613, vous êtes balisés de tous les côtés, et vous appliquez. L'islam a ses cinq piliers, vous respectez les cinq piliers, vous êtes balisés. Certaines églises chrétiennes ont fait la même chose. Ce que dit Jésus, ce n'est pas du tout ça. Tout ce qu'il dit, c'est exactement l'inverse. Subvertir par l'amour. Le disciple, c'est Paul qui le dit, il dit que le disciple doit vivre de la vie nouvelle qui est obtenue par Christ à travers la justification. Une vie nouvelle, ce saut dans le vide dont nous avons parlé, c'est une vie nouvelle. L'enseignement de Jésus, c'est la fraternité universelle. Jésus parle d'abord aux Juifs parce que, effectivement, c'est eux qui avaient reçu la première révélation, donc ils reçoivent la deuxième, ils la rejettent. Mais il fait suffisamment d'incursions, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour chez les païens pour montrer que la frontière est ouverte. Et donc il donne à ses disciples, quand il apparaît à Jérusalem, il leur donne l'ordre d'aller au-delà et de porter la parole missionnaire. Le chrétien, c'est quelqu'un qui s'adresse à tout le monde. Et personne ne peut échapper à ce message d'amour. Il y a quelques semaines, on a canonisé à Rome un missionnaire français qui s'appelle Charles de Foucault. C'est un nom que je connais depuis tout petit, puisque j'ai habité dans une rue qui portait son nom pendant pas mal d'années. Alors Charles de Foucault avait un surnom qui s'était donné lui-même, il s'appelait le frère universel. Je trouve ça magnifique. C'est dommage que ce soit lui qui ait eu l'idée. Mais on peut lui piquer, hein. Bon, il n'y a pas de droit d'auteur. Ouais, Jésus veut que nous soyons frères universels. Et la grande partie de la fin de sa vie, Charles Foucault l'a vécu au milieu des musulmans, en vivant avec eux, simplement, et en étant de plus en plus source d'amour. Et le paradoxe terrible, c'est qu'il n'a jamais converti un seul musulman. C'est problématique, hein ? Or, cet homme vivait de l'amour de Dieu. Parce qu'il était là juste pour semer par sa présence, c'est tout. Donc ce n'est pas à la quantité des conversions effectuées que l'on doit mesurer la qualité du travail du croyant, mais à la fraternité universelle. Enfin, l'enseignement de Jésus, c'est le refus du paraître, le refus de la posture. Bon, je ne peux pas parler du bling-bling, hein, mais la posture, fut-elle religieuse ? Alors là, ça gratte. Les pharisiens, dans les évangiles, ils en prennent plein la figure, passez-moi l'expression. Hein. Et quand on lit, il y a des moments où on dit, ça c'est bien envoyé. Hein. Ouais, c'est bien envoyé. Mais, selon l'expression populaire, il serait bon de balayer devant notre porte. Je voudrais, si on pratiquait un examen personnel, je voudrais savoir qui de nous n'a pas été pharisien à un moment ou à un autre. Parce que le pharisaïsme, ça peut s'habiller de très belles raisons chrétiennes. Donc, ne soyons pas trop enclins à prendre nos distances avec les pharisiens. Beaucoup de choses que Jésus leur dit nous concernent. L'histoire chrétienne est pleine de paraître. Et comme le disait Jacques Ellul, si je suis chrétien, je ne peux pas me séparer des autres chrétiens depuis 2000 ans. Ont-ils commis des erreurs énormes ? Je ne peux pas dire, je suis chrétien depuis la Réforme, moi. Mais tout ce qui s'est passé avant, ça ne me regarde pas. Et non. Nous sommes dans le peuple chrétien. Ça, les gens de l'extérieur, les gens du monde, entre guillemets, s'en fichent. Or, le paraître, il y est. Hein. Il y est, le paraître. Est-ce que c'est avec ces palais épiscopaux, avec ces églises remplies de tableaux, de biens précieux, etc. Est-ce que c'est avec ces trains de vie pontificaux énormes de l'histoire, est-ce que c'est avec ça qu'on obéit à Jésus ? Non ? Bon, là, ça va, je parle des papes, c'est bon. Mais si on le ramène à notre petite vie, il y a des moments où il faut que nous nous posions la question. Est-ce que telle chose que j'ai envie de faire ou que je veux faire ou que j'ai faite, est-ce qu'elle relève de la vie du disciple du Christ ou est-ce qu'elle relève du paraître qui me plaît et voilà, de l'image que je veux donner ? Chaque fois qu'on pourra répondre « ça me plaît » et que c'est en opposition avec Jésus, ben, on est à côté de la plaque. Donc, j'arrête là, mais je pourrais allonger la liste. Ça, c'est la vie de Jésus. C'est ce que Jésus a vécu, et vous pouvez retrouver tout ce que je viens de dire dans les évangiles. Et bien plus encore. Alors, que faut-il conclure ? Ben, je dirais pour commencer que Jésus est bien plus grand que nos églises et nos religions chrétiennes. Nous sommes pratiquement, les hommes ne peuvent éviter de donner naissance à des églises et à des religions, parce que dès qu'ils se rassemblent pour prier, comme Jésus l'a dit, hein, lorsque deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dès qu'ils se rassemblent, eh ben, là, il faut trouver des lieux, il faut etc. Donc il ne s'agit pas de raser toutes les religions, il s'agit de savoir que la religion n'est qu'un pis-aller. La religion n'est qu'un pis-aller dont il ne faut pas être les serviteurs. Ce que nous avons à servir, c'est le Christ. Donc, il faut que, dans notre approche de vie religieuse, entre guillemets, de vie d'Église, eh bien, nous ayons cette rigueur de Jésus plus grand que tout. Et à ce prix-là, nos Églises seront une force de témoignage et pourront annoncer le merveilleux message de Jean 3,16 que nous avons vu tout à l'heure. Donc je pense que mon but ce matin, c'était en tout cas d'essayer de vous montrer que c'est Jésus qui doit être au-dessus de tout. Rien n'est au-dessus de Jésus, et c'est bon de le rappeler de temps en temps, parce que c'est facile de mettre autre chose.